Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE et aujourd'hui, direction Monday Night Raw. Nous sommes le 15 mai 2023 à Greensboro, en Caroline du Nord. Pour m'accompagner dans l'analyse de cet épisode exceptionnel, j'ai avec moi Papy. Salut Papy.
Bonjour petits enfants, bonjour patron, comment vas-tu?
Écoute, ça va bien, je suis ravi d'être avec toi pour analyser ce show d'ores et déjà historique.
Nous sommes,
oui, là c'est du lourd qui nous attend.
L'histoire est au tournant.
Ah oui, oui, et bien tournons la première page de cette histoire justement, puisque ce nouveau chapitre s'ouvre avec des Canadiens. Et ouais, j'espère que vous aimez nos amis Canadiens, des Canadiens qui voyagent dorénavant, ils ont le droit de quitter la terre des caribous.
Ben, c'est beau quand même de pouvoir voyager autant.
Direction l'Arabie Saoudite pour Kevin Owens et Sami Zayn qui devront donc défendre leur titre tag team. Ils sont excités, ils ont découvert comme nous tous, en même temps que nous, hein, visiblement ils n'étaient pas au courant avant, qu'ils allaient donc défendre leur titre contre Roman Reigns et Solo Sikoa, la Bloodline, et non pas les Ouzo. Eh oui, Roman Reigns va faire le sale boulot comme un grand, comme un chef tribal à la grosse tête qu'il est, avec son zincou solo. Grosse menace hein, pour les Canadiens, mon papy, avec Roman Reigns et Solo Sikoa.
Ah, ça va aller changer de moto. Hein.
Ouais, ça va être dur, ça va être dur. Mais voilà, ils voient ça comme une opportunité, une chance, presque, d'avoir enfin leur revanche sur Roman Reigns, parce que, papy, tout ça n'est qu'une histoire de revanche et de problèmes à résoudre depuis 6 mois. Hein. Visiblement, cette histoire n'est... pas encore terminé.
Hein. Bah ouais, non mais attends, avec tout ce qui s'est passé depuis. Là, l'avantage, c'est qu'ils peuvent. La Bloodline, ça a été tellement long, tellement large, qu'ils peuvent reboucler pas mal de sujets, quoi. Aussi bien la vengeance que ce que Sami donnera à dire dans la foulée, c'est la mégalomanie de Roman Reigns, quoi, qu'il dénonce depuis longtemps.
Exactement. Eh oui. Reigns, il est complètement fou. Il est complètement taré, ce Roman Reigns, comme tu l'as dit. La musique de Judgment Day est retentie. On ne peut pas voir un Monday Night Raw sans entendre 3 ou 4 fois le theme song de Judgment Day, papy. C'est pas possible.
Mais il s'étale en plus. Hein. Il s'arrange pour jamais être là tous en même temps. souvent, il profite pour séparer en micro-groupe.
C'est, tu parles de la Bloodline qui s'étend, qui prend de la place. Eh bien, le Judgment Day, il se positionne pas mal aussi. D'ailleurs, on va voir que tous ces gens-là sont très, très, très liés par les liens du sang. Owens, il en a déjà marre. En fait, Owens, ça l'arrange. Que Judgment Day débarque, en fait. Puisque lui, il ne voulait pas parler de la Bloodline. Hein, pendant toute la promo qui était portée avec les tripes par Sami Zayn. Et Kevin Zayn. Owens, lui, on sent que ça lui casse les couilles un petit peu, la Bloodline.
Oui, Owens, ça fait quelques semaines qu'il est blasé. Là, il n'en peut plus des promos, en fait. Ça, lui, il en a marre des storylines. Il a raison en même temps, parce qu'en fait, comme toutes les storylines tournent autour de la Bloodline et des Canadiens, bah, il doit se les taper toutes les semaines, les storylines, alors qu'il aimerait bien juste péter des gueules un peu comme les autres qui n'ont pas de storyline, et donc du coup, il est blasé, là, il n'en peut plus.
Kevin Owens, c'est ce spectateur justement qui en a un petit peu ras-le-bol de cette histoire de Bloodline et qui veut juste de la bagarre, finalement.
Voilà, c'est le spectateur de l'AEW. Non, j'ai pas compris.
Ouais. Sami Zayn dit, on se calme, calmez-vous, on n'a pas de problème avec le Judgment Day. Peut-être qu'ils ne sont pas venus pour se battre. Écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Eh oui, hein, avant de se taper dessus, il faut d'abord se parler. Hein, mon papy, avant de résoudre les problèmes, tout de suite appuie sur le gros bouton rouge là, et lancer les hostilités. Et en fait, Damien Priest dit à Kevin Owens qu'il aimerait bien se battre. Alors finalement, Kevin, il avait raison. Kevin avait bien compris. Sami est un petit peu naïf. Finn Balor dit « Calme-toi, Damien Priest ». Donc on a clairement hein, des deux côtés des bagarreurs. Balor, lui, il voulait parler. Il vient souhaiter bonne chance, justement, aux Canadiens pour leur match en Arabie Saoudite. Mais voilà, ils les attendent au tournant et ils leur lancent un défi que si par miracle, ils conservent leur titre après leur match, ils seront là. La file d'attente commence avec eux. Ici, ils tracent une ligne et Rhea Ripley rajoute que c'est eux qui dirigent Monday Night Raw. Grosse pop hein, pour Rhea Ripley quand elle parle. T'as vu ça?
C'est assez. Ah ouais, c'est assez étonnant et c'est assez le contraste par rapport à l'ensemble du reste du Judgment Day qui est haï. Mais alors elle, par contre, elle est adorée maintenant.
Ouais. Bah, tu as raison. Et non seulement ça, mais encore plus avec Dominique, hein, Domino. Ils sont tellement proches. Je ne sais pas si, de mémoire récente, on s'est déjà retrouvé dans cette situation où une paire comme ça, aussi proche, aussi liée, quasiment presque une tag team, hein, on pourrait dire, Rhea Ripley et Dominique, génère autant de réactions totalement opposées, quoi. C'est assez surprenant, assez original.
Si, à la limite, si je forçais un peu, mais ça serait pas aussi opposé, t'avais un peu ça quand Sami était au sein de la Bloodline, en fait. Et lui, il avait une pop de monstre, et puis le reste de la Bloodline était un peu moins suivi, mais bon. Il s'était pas haï comme les Domino.
Ah oui, non. Domino, il est vraiment au top du game, de la hit. D'ailleurs, c'est quoi ça bizarre, lui demande d'avoir l'opinion de Dominique sur tout ça. Les fans s'en donnent un cœur joie. On l'entendra pas beaucoup. Kevin Owens dit, attends, c'est bon, je peux le taper, là? Je comprends pas, le match a commencé, c'est quoi? C'est vraiment en mode...
On peut taper, là?
En mode Obélix, quoi, laissez-les-moi. Rhea Ripley qui défend son sex boy, là, et Damien Priest qui en profite pour taper dans le lard, et puis voilà, ça se rentre dedans, et puis finalement, le Judgment Day se barre. On retrouvera ce petit monde en main event ce soir, puisque le Judgment Day va affronter Kevin Owens et Sami Zayn. Voilà, on n'attend pas. Voilà, les mecs sont venus demander un title shot et ils se retrouvent avec un match le soir même, mais sans title shot. C'est une spécialité WWE.
Ben oui, de toute façon, c'est un peu le principe de ces shows, finalement, sans figure d'autorité ou avec juste Pierce. C'est qu'en fait, les matchs se gèrent s'autobookent par les gars, puis ils sont juste validés par une autorité supérieure qu'on ne voit jamais. Puis voilà, c'est magique. Tais-toi. Hop.
Bon, c'est quand même un bon opener. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ça a bien mis tout le monde bien, bien chaud.
Ça lance sur la suite de la soirée, en fait, qui sera. Parce qu'en fait, c'est non seulement un opener, mais c'est un fil rouge aussi pour cette soirée.
Et oui. Et nous, on aime les fils rouges. On aime les fils rouges.
Ça fait plaisir.
Je sais pas si tu aimes autant les fils rouges. Je sais pas si tu aimes autant Shinsuke Nakamura que les fils rouges, mon papy.
Ah non, je ne pense pas, non.
Si tu devais choisir entre Shinsuke Nakamura et un fil rouge, tu choisirais qui?
Si je fais entre 1000 Shinsuke Nakamura et un fil rouge, je prendrai le fil rouge quand même. Hein.
Bon, en tout cas, Nakamura a choisi le Miz. Ou plutôt, le Miz avait tenté de choisir Nakamura, lui proposer, on se souvient, d'être partenaire particulier. Et Nakamura préfère taper sur le Miz, comme 99% du roster, hein, du jobber jusqu'au main eventer. Le Miz est là, punching ball, officiel de la WWE. Bon voilà, un match très classique, un match correct, qui voit à la fin Nakamura se charger pour le Kinshasa, le Miz qui en profite pour se barrer, et qui met les doigts dans les yeux de Nakamura, hein, dans les yeux du japonais.
Ou le vilain.
Ouais, c'est pas très gentil, Nakamura il avait les yeux comme ça tout bridés, hein, et puis il voyait plus rien.
Ouais, ça fait mal, hein.
Oui. Skull Crushing Finally, mais Nakamura avait le pied long, le pied large, le pied sur la corde, et le roll-up qui ne passe pas, et le Kinshasa qui lui passe bel et bien, mon bon papy. 1, 2, 3, victoire de Shinsuke Nakamura, qui s'est retrouvé une petite... on va dire la rivalité par défaut pour un babyface, c'est la rivalité contre le Miz.
Oui, c'est la rivalité, on va dire, par défaut. Le match, j'ai pas été super emballé. Je trouve que Nakamura, il est plus du tout dans le rythme. Et donc, du coup, face à un Miz qui est pas du genre à mettre du rythme lui-même, ça.
Ouais.
C'était propre, mais c'était pas super bondissant, quoi. Donc, j'ai moyennement apprécié ce match-là. Je sais pas ce qu'ils ont. Ces deux vétérans, finalement, je sais pas ce qu'ils veulent en faire, mais bon. Comme tu dis, c'est le choix de facilité, mais. Un face contre un heel que tout le monde déteste, et puis ça passe quand même.
Ouais. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, finalement, quand je dis que c'est la rivalité par défaut, c'est vraiment cette rivalité de mid-carder éternelle, enfin pas éternelle, parce que c'est des mecs qui ont tutoyé plus ou moins les sommets, et aussi tutoyé plus ou moins la low-carne. C'est des mecs comme Ziggler, c'est tous ces mecs-là. Quand tu les mets ensemble dans une rivalité, toi, c'est pas genre, ok, il y a un rookie... On va profiter pour le faire monter, ou au contraire, c'est une rivalité que tout le monde attendait. Là, c'est vraiment la rivalité générée aléatoirement, quoi.
Ouais, c'est la rivalité de transition. On en parlera tout à l'heure quand on aura la Battle Royale.
Ouais.
Parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs niveaux dans le roster. Et là, c'est eux, ils sont au niveau, on va dire, les gars, on sait pas trop quoi en foutre, mais on sait qu'ils sont toujours utiles.
Ouais, donc
on les monte quand même, on les affilie à un roster, Mais bon, on vous les verrez régulièrement, mais pour un jour, quand on aura besoin d'un programme, on saura les sortir de leur boîte.
Ouais, effectivement. Bah, ils sont en salle d'attente, quoi. C'est la salle d'attente. C'est la salle d'attente de la WWE.
Ils patientent sagement.
Ouais, ouais, ouais. Bon, toi qui aimes les fils rouges, bah on en a bouffé hein, des fils rouges. On en a bouffé des fils rouges. Je passe sur une petite séquence backstage que je rapatrierai plus tard avec un match dans la division féminine. On a plutôt eu, ou surtout, une interview en 19 parties avec Seth Rollins et Corey Graves.
Ah oui, on l'a senti passer comme cette interview. Ah, ouais. Hein.
Mamma mia. C'était long, c'était les sons. Et puis à chaque fois, il coupait. Mais avec une question de Corey Graves et cette Rollins qui s'apprête à répondre. Et, oh, genre, mais c'est surtout des fois sur des questions, mais pff, toi, hyper plate, quoi. C'était ça. Moi, des fois, je disais, mais attends, c'est fini là. Ah non, d'accord, le temps de calculer que c'est en trois morceaux. Bon, rien d'exceptionnel, franchement, dans cette presque revue de carrière hein, de cette Rollins, on peut la qualifier comme ça. Qui, voilà, avec son poteau Corey Graves, parce que les deux se connaissent bien, on a revu un peu toute la carrière de Seth Rollins, hein, de NXT. Ben voilà, c'était en 2012, donc voilà, ça fait. On parlait des 10 ans du Shield, finalement.
C'est les 11 ans de Seth Rollins, du coup.
C'est les 11 ans de Seth Rollins, super, joyeux anniversaire. J'espère que tu as reçu ton petit carton d'invitation.
Et pour la méga boom.
c'est de 14h à 16h30. Avec il y aura la fille de Seth Rollins, celle qui connaît pas ses couleurs, la grosse
nulle. La petite roue.
Petite roue, oui, c'est vrai. Roue, fille de Rousse, c'est pas mal. Il fallait la faire. Bon, voilà. En tout cas, un Seth Rollins qui, à la fin, promet de se renouveler, d'apporter du nouveau, du sang neuf, du sang frais.
Bon. Oui. Bon, après, voilà, Je pense que c'était surtout c'est un peu le fait d'avoir une finale de championnat du monde avec deux gars dans des rosters différents. Ça fait que, avec les rosters qui sont en face séparés, tu te retrouves avec un gars qui est tout seul pour revendre le match. C'était honnête, on va dire. C'est-à-dire que ça repositionne un peu l'ami Seth en top star, mais en rappelant un peu pourquoi c'est la top star. L'avantage qu'on a, c'est que ça va très très vite arriver le Night of Champions. Donc, du coup. Ils vont pas avoir non plus trop de choix meublés.
Alors l'interview, on n'aura même pas tout eu ce lundi. Hein. Il y a la suite la semaine prochaine, Aro.
Ah oui, donc ils vont vraiment meubler. Attends, j'avais pas capté ça.
En fait, à la fin, la dernière question de Corey Graves, c'est il demande l'avis de Seth Rollins sur Roman Reigns. Je sais pas si tu te souviens. Et on n'a jamais la réponse de ce truc.
Oui, mais moi non plus. C'est vrai que t'as raison, ça se termine là-dessus. Je pensais que c'était. Ouais, je sais pas, je comprends rien de toute façon. Je suis que d'une oreille, je me suis dit c'est bidon comme truc. Donc j'ai pas trop accroché, je t'avouerais.
Non, c'était complètement bidon, c'est complètement naze. Est-ce que, comme nos auditeurs sur Discord, tu penses que ça aurait été bien de mettre un petit Edge Styles là-dedans?
Je suis partagé parce que quelque part, c'est. Comment dire, c'est plutôt bien d'avoir joué la carte des ressorts séparés.
Mm-hmm.
Moi je pense que la confrontation entre les deux peuvent se la garder juste au dernier moment. Là il reste encore trois shows d'ici j'ai toujours envie de dire Crown Jewel, mais c'est Night of Champions.
Mm-hmm.
D'ici là je pense qu'ils pourront jouer la carte Edge Styles Seth Rollins, mais j'aurais qu'une signature de contrat, un truc comme ça. Mais là s'ils veulent aller au bout de l'idée de dire que c'est des rosters séparés, moi je trouve ça bien finalement qu'ils ne les font pas se croiser tous les 5 minutes. Ça aurait été vraiment relou, quoi.
Ouais. Y a rien de personnel dans ce match-up.
Non, c'est juste un match entre les deux meilleurs, quoi. Donc, ils vont le vendre. Je pense qu'ils vont axer là-dessus en disant c'est deux super champions.
Ok. Écoute, en parlant de Night of Champions, on a eu un match pour déterminer l'aspirant au titre intercontinental de Gunther. Et oui, on a eu notamment Imperium qui est arrivé aux abords du ring et Kaiser qui demande tout le monde de montrer leur gratitude envers leur champion, le Ring General Gunther, hein, qui enfin débarque officiellement à Raw. Il avait brillé par son absence la semaine dernière. Il a dominé le show bleu, il vient dominer le show rouge. Il a le plus long règne intercontinental de l'ère moderne. Alors du coup, ça commence quand l'ère moderne, pour toi?
Ça commence à partir du moment où Triple H a dit que ça commençait pour avoir des records. Donc,
c'est ça.
Tu prends le dernier qui avait le record, à partir de là, tu décides que c'est l'ère moderne, en fait. Comme ça, t'es pas trop emmerdé.
D'accord, donc ça, c'est fluide, quoi. C'est fluide. C'est Triple H, il est fluide.
Il s'adapte au truc. Je pense que la prochaine ère moderne, ça sera quand ils auront besoin d'un remplaçant à Gunther, donc ça démarrera après Gunther.
Le match commence, donc voilà, sous le regard intéressé par Gunther, qui est un homme de il veut du combat, il est là pour avoir un adversaire méritant. Voilà, il est là pour ça. Alors là, tu parlais effectivement, il y a eu du beau monde, il y a eu notamment beaucoup de montées de NXT qui étaient là ce soir, qui ont fait leur apparition par la Battle Royale. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de voir justement tous ces mecs de NXT qui sont montés? Alors on a eu JD McGonagall, McGilligilly. Il y a eu qui Von Wagner, le nouveau Great Khali.
Ah, t'avais à la fois en fait ceux qui étaient draftés à Raw, donc Apollo Crews aussi qui était là.
Apollo Crews qui est revenu de NXT. Xion Queen.
T'avais tous ceux, les Xion Queen et les machins qui étaient les sans roster en fait.
Ah oui, Xion Queen, c'est vrai, il est sans roster lui.
Il semble qu'il est free agent, ouais. Je dis une connerie, mais en tout cas, je vois pas dans un autre roster. Donc moi, je l'avais identifié comme free agent.
Bon, en tout cas, il y avait du monde. Entre les montées de NXT, les transferts de SmackDown, les mecs qui ont pas de programme, les tag teams sans feud, il y avait quoi, une bonne vingtaine de belligérants. Baron Corbin, je pensais qu'il allait se faire éliminer en premier, il s'est fait éliminer en deuxième. Je voyais bien le Baron se faire éliminer assez rapidement.
Même ça, il l'a pas eu.
Même ça, il l'a pas eu. As-tu remarqué qu'il se bat en short?
Oui, depuis qu'il s'est fait virer par JBL, il se balade en short. Enfin, même c'est entre un short et un pantacourt. Hein. C'est assez.
Oui, c'est plus un pantacourt, effectivement.
Ou un berbe. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est
un bermuda.
Un bermuda, peut-être.
Faudrait en tout cas, ce n'est pas un short. Tu as raison.
Les amis de la Fashion Week viennent nous conseiller là de catch-up, de catch-up fashion. Mais il me semble que c'est entre un bermuda et un pantacourt à vérifier. Mais oui, il a cette tenue. Encore, on parlait de free agent. Et Baron Corbin a encore un des free agents. Et voilà, donc ce que je disais tout à l'heure par rapport à Miz et Nakamura, qui étaient les vétérans sur qui tu ne peux pas précompter. Et après, tu as les free agents. Alors, eux, c'est les gens sur qui tu n'as aucun programme prévu pour eux, comme Baron Corbin, comme tous les gars de NXT dont tu as parlé, comme Ziggler aussi qui est là. Et puis, en fait, qui vont être là juste à boucher tes trous quand tu as besoin d'une rivalité, quand tu as besoin de nombre pour une Battle Royale. Et tu tapes dans ces gars-là qui sont là pour boucher les trous.
Ouais. Bon, voilà, évidemment, on profite de ces petites batailles royales qui, j'ai trouvé, étaient pas mal construites. Toi, assez efficaces. Et on a monté comme ça, on a commencé à monter 2-3 rivalités. Je l'ai plutôt trouvé bien foutu. On a eu pas mal d'éliminations. Je crois Dexter Lumis qui s'est retrouvé éliminé par. C'est lui qui s'est fait retrouver par... qui s'est fait éliminer par les Maximum Male Models.
J'aurais dit lui parce qu'après c'est lui qui les sort, donc j'aurais dit que c'est lui qui.
Ouais, je crois que t'as raison. C'est ça, il se fait sortir par les Maximum Male Models et après il revient puis il les refait sortir, je crois.
Non, il y a je ne sais plus qui sort Massé, mais après il y a Mansoir qui tombe dans les bras de Massé, puis Massé qui voit Dexter qui lâche. À mon avis, c'est Gargano, je pense, qui a dû faire tomber, hein, vu relation avec Dexter Lewis.
Otis. Otis. Ah ben oui, évidemment. Oui, parce qu'il y avait...
Maxine.
Maxine qui était aux abords du ring et donc qui a pu observer les hauts faits de Otis, effectivement. Oui, oui, tu as raison. Voilà, il y a eu toute une saucisse, comme ça, une brochette qui a été faite au début pour remonter quelques petites rivalités. On a eu donc à la fin, il restait quoi? Allez, Ali, Riddle, donc voilà des chouchous hein, du public, Gargano, un moins chouchou.
Un mec qu'on subit hein, de toute façon.
Bronson Reed, Ricochet. Tiens, pas de. Où était notre ami Braun Strowman? Absent.
Il a encore une convention ou un truc comme ça, lui.
Ah oui, sûrement. Ouais. Riddle qui sort Gargano, Gunther qui envoie Kaiser et voilà, c'est Sbir Vinci attaquer Riddle, Bronson Reed qui en profite pour balancer Riddle et l'éliminer, Ricochet coup de pied sur Reed, coup de pied, ils veulent sortir avec l'aide d'Ali, donc les deux hommes, il ne reste plus que trois hommes à ce moment-là, les deux hommes sont ensemble prêts à faire une énorme sortie. Ricochet qui veut sortir avec un dropkick, Bronson Reed qui le chope sur ses épaules. Là, on est aux abords du ring, on est même à l'extérieur De l'autre côté, hein, on est sur le bord du tablier, là, de l'autre côté des cordes, avec Bronson Reed qui s'apprête à balancer Ricochet. Et là, positivement, notre ami Mustafa Ali fait un énorme dropkick depuis le turnbuckle sur Bronson Reed. Et les deux hommes, donc Bronson Reed et Ricochet, s'écroulent et tombent et sont donc éliminés. Et c'est Mustafa Ali qui va donc aller défier Gunther en Arabie Saoudite pour le titre intercontinental. Les deux hommes se croiseront un petit peu plus tard dans les vestiaires. Et Gunther qui va impressionner Mustafa Ali, il dit « Super, t'attachant, je vais t'écraser. » L'autre, il dit « Mais attends, en fait, moi, je vais... » C'est à coup de « Ouais, tu vas voyager. Très... C'est dommage, tu vas te taper 10 heures d'avion, tout ça pour perdre. » Et l'autre, il dit « Ah non, toi, tu vas te taper 10 heures d'avion, tout ça pour perdre. »
Ah non. la bonne balle, ah non. C'est là qu'il dit, tu vas prendre l'avion pour aller perdre. Il dit, ah non, toi tu vas prendre l'avion retour pour aller revenir sans ta ceinture. Ah ah ouais. C'était
bien vu, bien vu.
Pas au niveau.
Positif, positif. Bon, question à Mustafa Ali, sympa, sympa, très bien, très bien. Il va aller,
Bah, Mustafa Ali, non, moi sur le coup, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce choix à la con. Ils ont pris en plus un des rares qui soit free agent. Donc, c'est-à-dire que le mec, on dit qu'on compte pas dessus, puis. Première chose qu'on fait, boum, challenger numéro 1 pour le titre intercontinental. Et puis après, après la promo entre les deux m'a rappelé que quand ils se sont dit on se reverra Night of Champions, je dis ah oui, ok, match en Arabie Saoudite.
Et
ils,
oui.
Ils avaient besoin de l'Arabe du coin. Je ne suis pas raciste, mon challenger numéro 1 pour le titre intercontinental est arabe. Et bah, du coup, c'est Mustafa Ali qui s'y colle à la place de Mansoor. Ils alternent un an sur deux. Bon, c'est, je sais pas si on doit s'en réjouir, on va dire tant mieux pour Ali, mais c'est toujours un petit peu dommage. Quoique, c'est dommage.
Ah, moi, je suis content. Soyons heureux.
Voilà, il faut pas.
Sois positive. Ouais, il faut voir les choses de façon positive, mon papy.
Ouais, non.
De toute façon, t'envoies forcément un mec qui va aller s'éclater la trompe. Enfin, toi, qui t'a envoyé un mec s'éclater sur Gunther, toi, autant.
C'est l'équivalent de Zelina Vega.
Voilà. Voilà, c'est le Zelina Vega de la division. Masculine, Mustafa Ali. Allez, on continue. Becky Lynch, elle nous avait manqué. Elle est là avec son micro pour nous dire que voilà, elle a des problèmes. Elle a dit tout le monde a des problèmes, des gros, des petits et des moyens. Elle a touché dans le mille. Hein. Je crois que là, belle analyse de la situation géopolitique en France. On a tous des problèmes et du coup, bah, il faut les affronter. Hein. C'est ce qu'elle a fait pour devenir the man, celle qu'elle est aujourd'hui. Et parfois, il faut aussi ne pas avoir peur de demander de l'aide. Hein, papy, si tu galères pour quelque chose, n'hésite pas à demander de l'aide.
Ah bah justement, j'ai besoin d'aller aux toilettes, si tu pouvais m'accompagner.
Oui, bah, pas de problème, je fais déjà ça avec mes enfants. Pas les enfants des autres, hein. Je ne suis pas un youtubeur qui a des soucis avec la justice. Hein. Donc je ne vais pas avoir de soucis, tu es majeur, papy.
Je suis même au-delà de majeur, mais après, tu sais quoi, on finit par régresser au bout d'un moment.
Est-ce qu'il y a le... Ouais. Alors, on va voir si... je ne veux pas me mettre dans une position où, d'un point de vue légal ou judiciaire, j'aurai des ennuis. Donc je te propose d'y aller tout seul, et voilà, je peux tenir la porte, si tu veux. Je peux tenir la porte.
Tu diras quelque chose, c'est bien ça.
Revenons au studio. Elle dit, bah voilà, Lita, c'est ma copine, elle m'a aidé. Trish Stratus n'est jamais revenue pour l'aider. Elle est venue pour s'aider elle-même. C'est pas gentil, c'est pas bien. Elle veut remercier Trish Stratus. Hein. Thank you, Trish, c'est ce que tout le monde va dire. Parce que voilà, ça a ouvert des lumières. Ça a allumé des lumières qui étaient fermes, éteintes dans la tête à Becky Lynch depuis trop longtemps. Ok. Et Trish, voilà, elle a pris sa place, oui ou non, elle a décidé, voilà, elle lui lance un gros défi, tout simplement un Night of Champions, voilà, ça c'est l'objectif de cette promotion. Elle va la remettre à sa place, cette arnaqueuse, hein, finalement, qui se fait passer pour quelqu'un qui est la femme qui a lancé la révolution féminine, mais comme le dit Giscard, tout ça c'est de l'esbrouf.
C'est du mytho, ça. Ouais, mais elle a, ouais, alors on sent quand même qu'elle maîtrise mieux la technique de promotion que la dite Trish. Et puis après, elle a, du coup, elle a rebondi sur l'espèce de catchphrase que était en train de lancer Trish Status, le thank you Trish. Et puis, bah voilà quoi. Donc, elle a remercié, c'est toujours sympa de remercier ses futurs adversaires.
Hein. Elle va la remercier en lui remettant les idées en place, en lui décrochant la tête. Devant des dizaines de milliers de fans payés par le prince, tout simplement. C'est beau, encore une histoire de vengeance et de leçons de vie.
Ah, que d'émotions.
Ouais, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Ah oui, Rhea Ripley, Natalia, Petite interview de Rhea Ripley backstage, elle répond aux questions de Katie Kelly. Elle dit, bah voilà, Natalia, elle doit rester à sa place. Natalia dit, ouais, c'est pas, je sais pas trop quoi faire. Elle dit, ouais, l'autre a dit, ouais, je suis une championne, je mérite le respect. L'autre a dit, ouais, en fait, t'es pas venu pour aider Dana Brooke la dernière fois. T'es venu pour choper l'attention, là, parce que tu penses qu'à ça. Ça faisait longtemps que les gens pensaient plus à toi. Et puis, la prochaine fois que tu m'interromps, je vais pas t'aider à. Voilà, elle dit, comment dire, elle est toujours prête à aider quelqu'un, hein, Rhea Ripley, pas de problème, mais il faudrait pas abuser. Donc la prochaine fois qu'elle l'aidera, ce sera pas pour aider sa carrière, mais pour l'arrêter tout simplement, y mettre un terme.
Oh, voilà. elle va le débrancher, Natalia.
Débrancher Natalia. Bon voilà, voilà qui n'a pas un petit programme pour Rhea
Ripley. Ouais, alors le seul truc qui m'a intéressé là-dessus, ouais. Où je me suis dit ça pourrait être un bon move. Enfin, un bon move, mais compliqué derrière à gérer.
Oula, en 15 étapes.
En 15 étapes, voilà, un plan en 8 ans. C'est qu'en fait, elle a évoqué le fait de mettre un terme à la carrière de Natalia. Et là, pour le coup, je ne sais pas où en est Natalia dans son désir de continuer à catcher longtemps ou pas, mais mine de rien, elle a quand même elle a eu ses 40 ans cette année, je crois. Mm-hmm. Ou l'an dernier, enfin, je ne sais plus, bref, récemment. Et du coup, je me dis, peut-être que ça peut être ça le plan, parce que franchement, Natalia versus Rhea Ripley, ça ferait pas rêver. Mais Natalia versus Rhea Ripley avec la carte de Natalia en jeu, là, par contre, ouais. Là tu peux intéresser quand même beaucoup plus de gens, quoi. Donc je ne sais pas si c'est le plan ou si c'était juste une formulation comme ça, mais voilà, on va dire que c'est le seul truc qui m'a intéressé parce que le reste, le rapport à Dana Brooke, tout ça, voilà, quoi. Merci.
Ouais. C'est très intéressant ce que tu me dis, papy. Voilà, très intéressant. C'est suffisamment rare pour le signaler.
Oui, j'allais dire. Vas-y, papy, continue de parler.
Mais je n'avais pas fait attention à ça. Mais ça pourrait être un très bon programme, même un programme sur plus deux ou trois pay-per-view là. Hein. Sur deux ou trois matchs, ça pourrait jouer. Si vraiment ils jouent la carte de la carrière de Natalia, ils peuvent aller jusqu'à Money in the Bank ou même SummerSlam avec cette histoire. Hein.
Pourquoi pas. Carrément.
Bah ouais, si vraiment t'as un dernier gros match à SummerSlam pour Championship versus Career match, ça serait pas mal, ce serait une belle sortie tiens, pour Natalia. Et un sacré au fait pour Rhea Ripley. Hein, parce que,
bah je pense.
Natalia, quand même, c'est pas n'importe qui, hein, papy, attention. Attention. C'est elle qui l'a dit. Je suis pas n'importe qui.
Mais elle a raison, non mais. Dans autant une rivalité qui serait. Tu passerais une rivalité de transition où tu t'en fous un peu de résultats. Ah potentiellement un truc où qui sera un peu haletant quoi parce que bah, je sais pas si t'as le match de tu sais que c'est le dernier match de Natalia imagine à Money in the Bank à Londres t'as ce match là et on te dit c'est potentiellement le dernier de Natalia bah je pense que tu vas l'encourager Natalia enfin j'espère
ouais. Bah, au moins tu l'applaudiras à la fin qu'elle aura perdu
oui au moins
bravo allez suivant. En parlant de suivant Rhea Ripley elle accompagnait Dominique, hein, pour son match. Dominique, il avait un match contre le fameux mec qui a des gros dos sur Triple H, Xavier Woods. J'ai l'impression que ce mec-là a vraiment trouvé le bon dos. Il enchaîne des matchs de 10 minutes chaque semaine, et ce soir, c'est face à Domino. Mais là, voilà, là, c'est le mur. Je peux pas battre Domino comme ça en weekly. Ça ne se fait pas. Surtout avec Rhea Ripley qui vient sauver un domino de Xavier Woods, je vais le dire à la française.
Xavier.
Ouais, Xavier. Qui s'apprêtait à faire son coast-to-coast, je crois, que lui sauve les miches.
Certainement.
Y a de l'embrouille entre Xavier Woods et Rhea Ripley. Domino en profite pour distraire l'arbitre et Rhea Ripley en profite pour frapper Xavier Woods. Ce soir, on verra que Rhea Ripley, elle va taper partout. Elle tape les hommes. Voilà, la violence sexiste, misogyne de Rhea Ripley.
Quelle violence.
Elle ne voit pas les sexes. Certains qui ne voient pas les races ou les couleurs, elle ne voit pas le sexe. Voilà, simplement. Elle voit juste de la viande à taper. Et puis surtout, elle voit Dominique, son petit dôme. Elle voit Dom-Dom, la victime. Elle veut pas, donc elle transforme les autres en victimes. Et Domino, il en profite pour faire, mais alors un espèce de petit paquet dégueulasse, hein, dégueulasse. Mais qui suffit à apporter la victoire. Voilà, petite victoire en plus pour Domino qui a rabattu tout le monde. Hein. Surtout là, suite à la draft, il va encore aligner tout le monde. Je ne sais, il faudrait faire la liste de tous les mecs qu'il a vaincus. Hein.
Mais il n'avait pas perdu contre Xavier Woods la semaine dernière
Eh oui, ce qui était un scandale.
Non, mais une erreur d'arbitrage flagrante.
Ouais.
Mais du coup, je me demande s'il n'y a pas un petit programme entre Xavier Woods et Domino qui se lance là. Ça, ça fait plaisir. Hein.
Xavier Woods, exactement, qui disait à Domino avant le match que lui, il avait personne dans son coin. Que contrairement à Domino, c'est vrai que voilà, l'absence du reste du New Day se fait sentir. Ça fait toujours bizarre d'avoir un de ces mecs en programme solo. Ça leur réussit pas trop, malheureusement, en général. Petite pensée à Biggie, dont on était censé avoir des nouvelles, mais toujours rien.
Bon, après, l'avantage, c'est. Après, on s'était dit ça le farnier, ça n'a pas marché, mais encore une fois, si le fait que Woods soit en rivalité avec un membre d'une faction, tu peux te dire bah, peut-être que.
Ah, peut-être que. Ouais. Peut-être que voilà, on nous programme quelque chose de plus gros, de plus énorme.
D'un plan à 8 ans, là, peut-être que dans 2 ans, Kofi revient, dans 3 ans, Biggie revient, et puis dans 5 ans, il y a la fille de Kofi qui s'intègre au groupe, et puis on a un 4 versus 4 mixte qui va être sympa. Hein.
Ouais, bah si c'est comme la fille du rock, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, parce que voilà, le talent n'est pas forcément dans l'ADN.
Ah,
juste petit aparté, petite parenthèse, j'ai bien aimé la petite séquence qu'il y a eu backstage entre GD McDonough. J'arriverai jamais avec ce nom, avec le GD hein, qui s'était fait éliminer durant la Battle Royale par Dolph Ziggler. Et du coup, voilà,
et qui l'a attaqué ensuite.
Ah, voilà, qui l'a attaqué ensuite, bien 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 méchant, et il lui a éclaté la tronche dans les escaliers. Et du coup, bah voilà, hein, qui de mieux ? Qui mieux que Dolph Ziggler pour faire ses gammes quand on monte de NXT vers le main roster ? Hein, tout le monde le sait, voilà, c'est le gimmick de Dolph Ziggler, le gatekeeper. Et à la fin, je sais pas si t'as vu, il y avait notre ami Finn Balor en haut des marches d'escalier.
Ah, j'ai vu.
Donc les deux Irlandais hein, qui avaient déjà croisé le fer à NXT, il me semble. Oui, tout à fait, ils avaient croisé le fer à NXT. Ils se connaissent très très bien, ils ont fait leur classe ensemble. Et voilà, on a trouvé ces petites touches, la petite touche Triple H qui est presque la seule petite touche qu'on aime. Hein. Le fait
On n'aime pas trop quand il nous touche Triple H d'habitude.
Ah bah non. Voilà. Donc c'était la fin de ma petite parenthèse.
Non mais c'est vrai. J'aime.
Ah c'est bien. C'est un monde vivant. Là, ouais, c'est, voilà. On sent que le truc est vivant.
Voilà, c'est comment dire, c'est il se laisse des opportunités de petites pistes. Effectivement, le Finn Balor en plus avec le jeu mondé qui a tendance à toujours vouloir recruter des gens. Bah là, il y a un petit Irlandais hargneux, la nouvelle génération qui pourrait éventuellement lui plaire.
Est-ce qu'il te plaise? Les Indiens. Alors les Indiens d'Inde, hein. Pas les Indiens d'Amérique.
Enfin, là, tu me diras, c'est les Indiens
d'Inde. Même s'il y a un Canadien dans les...
dire, ils sont coachés par un Canadien, donc c'est comme un Indien d'Amérique, hein, PPR.
Oh, c'est les Indiens du monde, les Indiens internationaux. Hein. D'accord.
Voilà, les Indiens, on comprend lesquels.
Bah sûr, ils sont partout. Ok.
Ceux qui ont de la bouffe à leur nom. Voilà, on a compris.
Comment tu prononces Indouchir, Indoucher
Indouchir.
Avec Vir et Sangha.
Oui.
Virman, vous vous souvenez? Fini la vignette. Moi, ça me manque un peu. Ça me manque.
Avec ses yeux qui louchent.
Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup qui louchent. J'ai vu une promo là de Bron Breakker.
Ah oui, lui aussi.
NXT. Oh la vache, il a fait un regard caméra, tu sais, genre il était en interview, puis il regarde la caméra pour que ça devienne, parce que les choses deviennent sérieuses. Et là, waouh, oh là, je sais pas, je me suis gratté le nez, j'ai cru que j'avais un truc sur le nez, toi, le mec il louche comme ça, c'est pas possible. Pourquoi j'ai un truc, toi?
Comment on regarde comme ça, ce mec-là?
Ils ont des mecs louches à la WWE. Ils ont des mecs louches. Et Jinder Mahal aussi, il louche un petit peu, je crois, non? Il y a un petit strabisme.
Ah oui, c'est vrai, il y a eu ça en son passé, le Jinder.
Bon, il s'occupe des deux catcheurs locaux. D'ailleurs, ça ne s'est pas allé assez vite à mon goût. Ils auraient dû se débarrasser. Même s'ils en ont, ils ont pris un peu goût, ils sont amusés avec eux un petit peu. C'était sympa.
Oui, et puis ils ont fait. Enfin, je pense qu'il y a aussi l'idée de faire une petite démo de ce qu'ils savent faire. Et moi, j'étais,
ouais, t'as raison.
D'ailleurs, étonné de voir Vir justement bouger autant. Quoi.
Il a vu ça. C'est lui qui fait. Ouais, c'était lui qui était hyper agile. Hein. Ah, ouais, qui faisait des dropkicks ou des choses comme ça. Hein.
En fait, j'ai l'impression que. Alors, j'ai oublié le nom du deuxième.
Sangha.
Mais j'ai l'impression que Vir, c'est les coups de poing et Sangha, c'est les coups de pied.
Ah, d'accord.
C'est comme ça que j'ai distingué les deux.
On est comme dans Street Fighter, quoi. T'as genre, un qui se coup de pied, l'autre plutôt coup de poing, et quand tu les fusionnes.
Eh ben, toi, t'as
le catcher ultime. L'Indien ultime.
Voilà. T'as Jinder Mahal.
T'as Jinder Mahal. Mais qui louche, du coup hein, parce qu'il y en a qui regardent à gauche, l'autre qui regardent à droite avant de fusionner. Et du coup,
ça louche.
Bon, voilà, en moins de 2 minutes, comme c'est expédié, je dis en fait c'était un peu trop long, mais non, c'était très bien. C'est très bien. Moi, ça m'a plu. Ça m'a
c'est
plu.
Ce qu'il fallait.
Voilà, je les aime bien. Je les aime déjà, toi. Toi, c'est plutôt efficace. Je les aime bien.
Bah, c'est bon, tu t'es attaché. Hein.
Ouais, Jindermal, il aura toujours une petite place dans mon cœur. Donc, voilà. En plus, il vient bien en manager, en coach. Alors, certains diront que c'est encore mieux. Donc, on va pouvoir. Les divisions tag team a de beaux jours devant elle. Qu'est-ce qui se passe, Kevin Owens, Sami Zayn, voilà un petit fil rouge. Je dis, bah voilà, on aurait du temps dû me laisser frapper Dominique. Qu'est-ce que ce bordel? Et puis, ils croisent encore Imperium. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là? Gunther dit, le manque de respect, là, c'est pas bien. Pop, pop, pop. Il dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Ils sont toujours en train de se faire emmerder. Vous voulez de la bagarre semaine prochaine? Ok. Et là, alors Gunther, il était à moitié bord de rire. Je sais pas. Il a dû raconter une blague juste avant de faire la scénette. Et puis, un défi est lancé la semaine prochaine, papy. Imperium affrontera Kevin Owens et Sami Zayn contre un partenaire de leur choix. Ta petite pièce?
Ah bah, j'hésite grandement entre Ali, vu que c'est la semaine prochaine, c'est juste avant Night of Champions. Mais j'ai quand même l'impression que le programme de long terme d'Imperium, c'est avec Riddle, le copain de Sami Zayn et Kevin Owens. Donc, je mettrai ma pièce sur Riddle, du coup. Mais t'as raison, hein, Gunther était plutôt mort de rire toute la soirée. Hein.
J'ai pas été content. Juste le mec, c'est juste un nazi content d'être là. Un nazi ravi.
Il s'est senti, je sais pas, peut-être en terrain conquis. Et du coup, ça lui a filé la banane à notre ami Gunther. La banane nazi. Ça, c'est quelque chose qu'on voit pas assez souvent.
Mais c'est drôle parce que c'est le grand méchant de l'histoire et tout. Et finalement, c'est le moins. Par rapport à Kaiser, par exemple, Ludwig Kaiser, qui, hors lui, tu le verras jamais. Le moindre sourire, enfin toi, il break, comme il dit, il va pas break the character, il va toujours rester hyper kiffé dans son truc. Et Gunther, tu sens que, ouais, voilà, il joue un rôle, mais ça l'amuse en même temps. Et du coup, je pense que c'est un mec, un jour, il va se mettre à rigoler comme un con pendant une scène, pendant une promo hyper sérieuse, toi. Parce que...
c'est un mec bonnard là.
Ouais, bah ouais, c'est un bon gars. Cody Rhodes, c'est un bon gars aussi. Il vient chauffer la foule, il vient chauffer les fans. Voilà, pas de Brock Lesnar ce soir, mon papy. Du coup, ouais, par contre, on a droit à sa petite cache-phrase que tu trouves qu'il foire à chaque fois. Donc, il va falloir m'expliquer qu'est-ce que tu as trouvé, pourquoi il l'a foiré encore, c'est ça?
Il n'a pas le bon tempo. Il n'a pas le bon tempo, c'est-à-dire que... Alors, d'habitude, il gérait mal le nom de la ville, donc il n'a pas le temps de se faire popper. Là, cette fois-ci, il l'a bien fait. Il a fait, alors... Greensboro, ou je sais plus quelle ville.
En Caroline du Nord.
Voilà, un truc du genre. Donc là, la foule qui pop et tout. Ah, et puis là, il fait What do you want to talk about it? Il te bafoue le truc derrière. Tu fais, non, mais c'est pas ça qu'il faut faire, la Cody. Là, faut... Je sais pas, merde. Pour une fois que tu fais bien la première partie, tu feras la deuxième. Alors, c'est pas possible.
En fait, il devrait pas la faire forcément tout le temps comme ça. Genre, il la joue toujours un peu taquin, toi. Genre, il y a des sous-entendus, comme il faisait au début, ou alors il a, je sais pas, genre qu'il est à Jacksonville, parce qu'il y a les, ouais, effectivement, la A-Dub, donc il y a des gros sous-entendus et tout. Donc, on joue un peu avec les smarts, le méta et tout, le sous-texte. Mais là, la foule est en délire. Tu gueules. Alors, vous voulez parler de quoi? Je sais pas, toi, histoire de faire bien popper tout le monde plutôt que de. Toi, même là, il a mis un. Des fois, il fait trop de temps mort. Il est trop. Des fois, tu vois, il tend l'oreille pour essayer de se raccrocher à la moindre pop. Genre les gens qui vont chanter Cody. Tu vois, des fois, ça, tu dis, mais mec, il se passe rien là, donc vas-y, enchaîne. Toi.
Non, mais je trouve qu'il gère mal encore ses temps morts étant fait dans une promo. Quoi. C'est, ouais. Et on le verra dans la suite de la promo qui était bien, mais par contre, tu as eu un gros temps faible pendant tout le début qui rattrape encore à la fin en gueulant comme un gros cochon. Mais c'est toujours particulier ces promos.
Ah, ils nous ont encore raconté une histoire. En plus, une histoire qu'on connaît, on la connaît tous cette histoire. Le scorpion,
le public,
la
greu. Pas.
Hein. Ouais, oui, l'histoire du. Vous connaissez l'histoire du scorpion de la. C'est pas vrai de sa grenouille là. Le scorpion qui demande à la grenouille s'il peut aider à traverser la rivière. Alors, il y a plusieurs versions de cette histoire. Les scorpions, des grenouilles, des lézards, des souris, des moutons, des vaches, ce que vous voulez, des koalas, des rhododendrons, n'importe quoi. La grenouille qui dit « Ouais, d'accord, mais tu vas me piquer. » Et puis finalement...
Si je te pique, eh ben, je vais me noyer.
Oui, puis finalement... d'accord, ok. Puis finalement, le scorpion, hop, il la pique en plein milieu, puis les deux, ils coulent comme des cons. Il dit « Pourquoi tu vas me piquer ?» Il dit « Ah, c'est dans ma nature. Je suis un scorpion, je suis obligé de piquer. » Et ben, Brock Lesnar, c'est dans sa nature de chasser. Ok, ça fait 5 minutes, tout ça pour dire ça. Merci.
Tout ça pour ça. Parce que, et en fait, pour toute l'histoire de la grenouille du scorpion, t'as plus lui qui réagit pas. Il fait alors, et là, qu'est-ce qui se passe? Et là, t'as plus lui qui dit rien. Il fait, et ouais, donc t'as le scorpion. Et puis il enchaîne, et puis t'as plus lui qui réagit absolument à aucun moment, jusqu'à qu'il dise le nom de Brock Lesnar, en fait.
Le mec, tu fais une fable de La Fontaine, quoi. Tu fais, mais mec, on a plus 12 ans, toi. C'était pas une histoire très, très intéressante, quoi, pour amener tout ça pour dire que Brock Lesnar est un chasseur. Ouais, ouais. Excuse-nous, mais on connaît Brock Lesnar, effectivement. Voilà, alors il lui dit, oh, au fait, Brock Lesnar, comment va ton visage? Ouais, avec un bon regard caméra. Mmh. Le public s'est réveillé à ce moment-là, parce que c'est ce que, voilà. Lesnar, voilà, se voit comme un lion, il se voit comme un prédateur. Voilà, le challenge pour Night of Champions est accepté, on y va. Voilà, il dit, pourquoi finalement Brock Lesnar fait tous ces coups-bas là pour gagner, pour l'emporter? Pourquoi il agit en fourbe? C'est tout simplement parce qu'il est fébrile. Hein, il veut être The Big Thing, et vous vous souvenez tous, hein, c'était The Next Big Thing, c'était le surnom de Brock Lesnar, hein, quand il arrivait à la WWE. Là, il lui dit, ouais, alors, je sais pas si tout le monde a eu la ref, il dit, qu'est-ce qui va arriver quand il ne tracera plus que le Next? Alors, je sais pas si c'était un coup à la Goldberg, parce qu'il avait perdu contre Goldberg. Ou c'était juste un jeu de mots sur le fait qu'il perdait Next Big Thing.
Moi, je suis pas sûr. Je pense que ça pas pisser très loin. Hein.
Non. On sait jamais que Cody Rhodes. Ben, oui, mais il nous a fait une fable de La Fontaine juste avant. Donc moi, j'essaye de trouver du sous-texte.
Tu raccroches à quelque chose, quoi.
Oui. Là, attends, Cody, tu voulais nous dire quoi, là, en fait, avec ce Next? Et puis, non, je voulais rien dire. Ah, ok, d'accord. Merci, Cody.
Merci, Cody, tu es le meilleur.
Bon voilà, et puis Brock Lesnar n'est pas le plus grand, mais il est simplement sur le chemin de Cody Rhodes. Et puis voilà, et puis ça se termine. Alors, comment il s'en est sorti là, Cody? Dit comme ça, on a l'impression que c'était pas ouf, hein, la façon dont j'ai raconté. Est-ce que j'ai bien raconté quand même?
Oui, non, mais t'as bien raconté. C'est effectivement, le contenu de la promo est pas ouf du tout. Après, ouais. En fait, c'est sur l'intensité où il se rattrape un peu sur...
Ouais.
Sur la fin, où à partir du moment où il reparle de Lesnar, t'as plus qui arrive à raccrocher les wagons parce que là, jusque là, le public était largué. Et en parlant de Lesnar avec la bonne intensité, en se mettant un peu en position de, ouais, la bête finalement qui agit que par instinct. Moi, pour moi, t'es rien, t'es juste un obstacle sur mon chemin. Ça a plutôt bien marqué que le public, donc je pense qu'il reste plutôt pas mal avec le public. Oui. Après, est-ce que le public accroche grâce à ses promos, ou est-ce que en fait c'est plutôt ses promos qui marchent parce qu'il a un public déjà qui a sa cause? J'ai envie de dire c'est la deuxième option parce qu'il c'est pas toujours net comme ses promos. Hein.
Non. Bah, de toute façon, moi je te rejoins complètement. Pour moi, c'est la deuxième option. Quand bien même il a eu quelques bonnes promos, mais c'était toujours la surprise. Ah tiens, sa promo là, elle est pas mal quoi. Mais depuis le début, il y a vraiment toute cette hype, grosse hype, et tant mieux pour lui, quoi, avec son premier retour, avec son deuxième retour, qu'ils l'ont tout le temps porté. Enfin, en fait, chaque ville a envie de voir Cody Rhodes, quoi. Et il arrive avec en fanfare, les pyros, la super musique, le super costume, le mec qui est un main eventer, il a une super histoire derrière, on s'accroche à fond. Mais c'est vrai qu'après, ces promos, je ne sais pas qui les écrit, si c'est lui qui les écrit, je ne sais pas trop, mais il en fait toujours trop. C'est trop cérébral à chaque fois, ces trucs. C'est trop cérébral.
J'ai quand même l'impression qu'elle touche à lui, hein, parce que c'est vrai que c'est vraiment un style particulier, ces promos. Hein. Et ouais, comme tu dis, c'est cérébral, c'est...
Très chargé, le vocabulaire est hyper complexe. On parle à des rednecks, là, toi, t'es dans l'Amérique profonde. Et mec, tu les entends, les gens s'endorment très rapidement en fait avec Cody Rhodes, mais ils se réveillent très rapidement, c'est ça qui est marrant. Dès qu'ils tournent le potard en intensité, ça repart direct. C'est amusant. Donc j'ai l'impression que finalement, Cody Rhodes, tout le monde s'en fout.
C'est au contraire, il captive les foules, par contre, il joue à mort sur son momentum actuel, donc il faut voir combien de temps ça peut durer.
C'est le gros défi, ouais.
Avant qu'éventuellement les gens se rendent compte qu'il y a une arnaque quelque part, je sais pas.
Bon, ils ont un an. C'est ce qu'on disait à la sortie de WrestleMania, ils l'ont fait foirer. S'il doit gagner au prochain WrestleMania, le challenge, ça va être de garder sa hype et sa pop jusqu'à WrestleMania 40. Donc là, on lui met Brock Lesnar, c'est une très bonne idée. Donc on va voir à la suite, est-ce qu'il va réussir à tenir comme ça jusqu'à WrestleMania 40, si c'est le plan, on ne sait rien, on ne fait que
essayer de deviner.
Oui, il y a peut-être d'autres plans, il y a toujours des plans. Enfin, Triple H a des plans sur 5 quinquennats, donc comme ça, on ne sait pas ce qui nous attend. Zoé Stark, Nikki Cross, Candice LeRae, voilà. Ouais, donc tout ça, c'est.
Next, on passe parce que de toute façon, ça next sera week. Une conclusion next week, voilà.
Raquel Rodriguez a affronté Chelsea Green. Chelsea Green, parce que Liv Morgan n'est pas bien. N'est pas bien.
Je me demande si elle s'est pas blessée. Hein, parce que
elle était blessée la semaine dernière.
Ouais, à la fin du dernier SmackDown, là, quand elle.
Elle était pas bien.
Quand elle prend le. Quand elle conserve le titre, à la célébration, elle douille vraiment beaucoup de l'épaule. Après, t'as la caméra qui reste un peu longtemps sur elle, donc elle se remet à sourire façon Liv Morgan, un peu idiote. Mais je pense qu'elle a douillé.
Ouais, d'ailleurs, bah voilà, Chelsea Green et sa comparse Sonya Deville sont allés se plaindre auprès d'Adam Pearce, évidemment, dans une petite séquence backstage. Et puis ça s'est terminé tout ça par ce match booké entre Raquel Rodriguez et Chelsea Green. Pauvre Chelsea Green, hein, qui perd face à Raquel Rodriguez après lui avoir fait deux gros slams là sur Chelsea Green et sa powerbomb pour le compte de 3. Raquel Rodriguez qui célèbre sa victoire, mais courte durée, courte célébration, puisque qui revient du diable au vert, Ronda Rousey est guérie, mes amis. Et oui, et Shayna Baszler est guérie aussi, mes amis, c'est la fête, tout le monde va bien. L'infirmerie se vide en même temps qu'elle se remplit, c'est incroyable. Et puis donc, Rousey dit à Rodriguez qu'elle va défendre son titre avec ou sans Liv Morgan, sinon elles vont la harceler, tout simplement, la taper, tous les jours, jusqu'à ce qu'elle matche.
Mais c'est terrible, et comme quoi, il y a des trucs qui marchent bien, hein, ou je ne sais pas si c'est par défaut ou pas, mais moi, j'étais super content de l'avoir arrivé Ronda Rousey, alors que d'habitude, j'en avais vraiment rien à foutre. Mais là, j'étais content. Ça y est, enfin, purée.
Il se passe quelque chose.
Tapez-les, là, ces championnes qui sont insupportables, là.
Oui.
Et j'étais content, moi, de voir Ronda venir casser la gueule à Raquel Rodriguez, alors que pourtant, j'ai quand même chié sur Ronda depuis plus d'un an maintenant. Donc, comme quoi, parfois, il faut juste le bon segment ou le bon moment, le bon momentum pour lancer quelqu'un. Et là, franchement, la division tag team, c'est tellement pourri chez les filles que voir Ronda et Shayna revenir, là, ça m'a donné un peu de baume au cœur, tu vois. Donc, au baume au cœur, je vais y arriver.
Du baume au cœur, du baume au cul, à catch-up avec le retour des badass qui vont casser des têtes, casser des genoux, tout simplement. C'est ça qu'on veut voir, en fait. La brutalité.
Voilà, la brutalité, s'il vous plaît. On a marre des filles qui sourient, qui se tapent sur les fesses, là. C'est pas possible.
Ouais, non, on ne veut pas voir ça. Pas sur nos écrans. Non. On a Gunther qui a serré la main à Poleman. Voilà, a serré la main dans une petite séquence en coulisses. Poleman qui est venu avec son téléphone avec un petit sticker visiteur. On respecte à mort le kéfait, ben, t'as vu ça?
Ouais, et c'était drôle parce qu'en fait, il serre d'abord une main et après, tu remontes la manche pour te rendre compte que c'est Poleman. Bon, enfin, bon, globalement, quand tu vois la main boudinée, tu t'es un peu douté qui c'était, mais ils ont quand même.
Lui ou Danny DeVito? Tu n'avais pas trop ça.
Ouais, est-ce que Danny DeVito était là ce soir? On ne le saura pas.
On a notre match. Donc, c'est le main event. Je crois qu'on arrive au main event, papy, hein, si je n'ai rien oublié, à part une petite vidéo d'Apollo Crews qui court sur les toits de la ville.
Apollo!
Ah, celui-là. Il y a toujours des mecs comme ça dans les boîtes qui se font jamais virer. Tu dis que c'est pas possible. Le mec, il monte, il descend, il reste dans l'ascenseur en fait. C'est pour ça qu'ils le retrouvent pas. Ils veulent le virer, mais il est toujours dans l'ascenseur.
Ah, c'est nous, des petites filles, on sait pas. Hein.
Donc, le main event pour ce fameux match tag team Damien Priest versus Finn Balor versus Kevin Owens et Sami Zayn. Donc, un bon gros main event façon WWE. Qui voit donc les deux équipes s'affronter avec un Sami Zayn qui va morfler, hein, qui va morfler pas mal, Kevin Owens qui veut la bagarre, Damien Priest qui veut la bagarre, tout autour du ring ça s'agite évidemment avec Rhea Ripley et Domino, d'ailleurs qui vont finir par se faire virer, l'arbitre.
Oh, scandale.
Non mais c'est une honte, en plus Domino il se fait pourchasser par Xavier Woods qui débarque, et oui, Papy l'avait vu la rivalité incroyable qui est en train de naître sous nos yeux entre l'ancien membre, le dernier membre du New Day, des membres actifs du New Day et notre chouchou Dom Dom. Donc voilà, ça se termine dans les gradins, enfin pas dans les gradins, mais voilà, à l'extérieur, quoi, tout ça. Et donc, du coup, bah, le jeu, je m'en dis, un petit peu en galère, hein, là, sans Rhea Ripley et Domino, ça sent pas bon. La Blue Thunder Dome sur, Thunder Dome, pff, là, sur Finn Balor. Et c'est pas facile à dire. Blue Thunder Dome, Bombe, Finn Balor. Vas-y, dis-moi tout ça 10 fois de suite. Qui arrive, chapeau bas. Et Imperium débarque, et ouais, le voilà, le deal qui s'était créé là, pourquoi on a vu la main de Danny DeVito, c'est pour ça, c'est Imperium.
Ah là là, tout est lié.
Pour distraire Sami Zayn, c'est le bordel, Finn Balor en profite pour placer un roll-up, ça ne passe pas, le Lasting Blade, ça passe pas, Kevin Owens qui arrive pour sauver son copain canadien, Priest qui va intervenir, mais non, Kevin Owens qui l'en empêche et qui place le stunner. Owens qui est éjecté, le Exploder sur Balor, le Hell of a Kick, mais Imperium qui monte pour distraire l'arbitre, Kevin Owens qui est pas content, Priest qui place un énorme choc slam à Kevin Owens qui ne se relèvera pas, Sami Zayn est tout seul, Sami Zayn qui se place pour un nouveau Hell of a Kick, mais l'Imperium qui continue de foutre le bordel et Gunther qui empêche Sami de placer son finish et Balor en profite pour placer son coup de grâce. 1, 2, 3, victoire du Judgment Day. Il aura fallu quand même toute une armée, une coalition de méchants pour venir à bout des champions tag team. Écoute, moi, j'ai adoré ce overbooking.
Ah non, mais moi, je te rejoins totalement.
C'est la Justice League là, des méchants.
C'est la... Non, comment ça s'appelle ça du coup? C'est les...
Ah bah je sais pas, j'y connais rien, faudrait demander à Ringside, hein, c'est lui
l'expert. Ah bah si, c'est connu, ça c'est les trucs, le truc Suicide Squad, voilà, c'est les, ça, ah, les méchants.
Ouais.
Mais oui, non, c'était ça, ils se sont tous réunis entre eux, aujourd'hui autour de nous, pour affronter les deux Canadiens qui sont identifiés comme finalement les deux principales stars d'Euro, vu qu'en même temps, c'est eux qui pour l'instant ont les plus hautes ceintures, vu qu'il n'y a pas de champion du monde. Et du coup, bah, ils se sont tous liés contre eux, puisque tu as les trois plus gros clans qui sont représentés, contre Bloodline, Judgment Day et Imperium. Et moi, j'ai trouvé ça super, en fait, comme mise en scène. Là, tu as le gros feu, là, du coup, sur nos Canadiens préférés, en disant comment ils vont s'en sortir, parce que ça pue quand même pas mal pour eux. Et puis voilà, je ne sais que dire de plus. Je trouve que c'était super. Là, en même temps, avec un Cody qui est contre un part-timer et un Seth qui n'est pas encore champion, c'est un peu compliqué finalement de booker une rivalité intéressante. Et ils ont fait ce choix-là. Et puis du coup, ils ont misé tout sur la tag team. Et je pense que c'est le bon choix parce que
ouais.
les champions marchent très bien auprès du public. Et puis alors là, voir tout le monde contre eux, c'est... C'est une super image.
Ouais, tu l'as dit. Bah, en fait, tu te poses la question, entre deux pay-per-view, qui est mon main eventer? Tu l'as dit, c'est pas Cody Rhodes, puisqu'il est face à un part-timer, les mecs vont pas se croiser, ça va être juste à base de promo d'une semaine à l'autre. Seth Rollins, qui est dans l'antichambre là, à faire ses interviews en attendant d'avoir sa nouvelle ceinture, son nouveau joujou, t'envoies les Canadiens. Et autant que leur premier match face au Street Profits, tu fais « Ok, super ». Enfin, les deux, trois premières semaines... Ok, enfin, ça y est, il y a déjà plus rien pour eux, quoi. C'est la tristesse, quoi. On mise pas sur ces mecs-là, toi. À la sortie de WrestleMania, c'était dur pour les Canadiens. Enfin,
c'était pas évident.
La célébration a été honteuse. Là, attends, trois, quatre semaines plus tard, c'est autre chose, hein. Là, t'envoies toute l'artillerie lourde, là, et des mecs qui se sont fait, pilonner. Et derrière, ça c'est très bien, je trouve aussi. Paul Heyman, le petit voyou, voilà, le mec qui lit les manigances. C'est-à-dire que on avait une fois de plus la Bloodline qui s'en sort bien. C'est-à-dire que ne pouvant plus compter sur la main-d'œuvre interne, la famille, avec les Ouzo qui sont des gros losers, on va les appeler les losers, les losers. Et du coup, il fait appel à des mercenaires, avec le Judgment Day d'abord, et puis là maintenant avec Imperium, pour régler les problèmes de la famille, et c'est le feu, voilà, c'est le feu, ils sont sous le feu en permanence, et c'était incroyable, j'ai trouvé, vraiment, moi j'étais ravi, vraiment là c'est ce que doit faire la WWE, dans le sens, ils peuvent le faire, Ils ont le roster pour le faire, ils ont les talents pour le faire, ils ont la mise en scène, le budget pour le faire. Toi, allons-y quoi, allons-y. Toi, c'est
un plaisir, les gars.
C'est du Marvel là, toi. On est dans c'est WWE Universe, donc il faut y aller. Il faut lier les méchants contre les gentils et envoyer le gros spectacle.
Ah non, pas le Big Show.
Ah. Bah non, c'est Omos, t'as dit que c'était Omos ce nouveau Big Show. Je t'ai écouté, vrai, je t'ai c'est... entendu. Comme quoi, j'écoute hein, quand vous faites des analyses et que même quand je suis pas invité. Et écoutez, t'as dit que c'était Omos.
Ça y est, tu fais la tête.
Je fais pas la tête. Je boude, c'est pas pareil.
D'accord.
Bon. non, mais j'ai bien. Voilà, on a Omos qui est là quelque part. À essayer de.
Hier.
Qui est... C'est un free agent, hein, lui aussi. Donc,
Mais qu'il a pas le droit de faire les Battle Royale. En fait, ils ont viré. Mais...
Oui.
En fait, quand t'es balèze, t'as pas le droit de faire les Battle Royale, quand même. Hein. C'est un peu ça ouais. qu'on peut retenir. C'est bon. C'est particulier.
Oui. Bon, bah, c'est l'heure du mot de la fin, mon beau papy. L'heure de distribuer les tops, les flops et les notes pour ce Monday Night Raw qui, d'ores et déjà, a marqué d'une croix rouge, d'une pierre blanche sur l'autel des plus grands épisodes de la WWE. De l'ère moderne, hein, je parle. Attention.
Ah oui, de l'ère moderne, toujours de l'ère moderne. Oui, bah, d'une croix rouge, hein, vu qu'on est à Raw, on va quand même prendre plutôt cette référence-là. Le top, je pourrais le donner. Enfin, j'hésite entre. C'est la même rivalité, mais pas le même moment. Soit je le donne au. J'hésite entre dans le fil rouge, finalement, de l'épisode, avec notamment Kevin Owens qui pète à cap complet. Et qui s'énerve contre toutes les provocations, tous les mecs qu'on lui met en travers la route. Ou alors, si où je le donne au main event, allez, je vais le donner au fil rouge. Allez, on va le tenter comme ça en disant Kevin Owens, qui notamment les réactions de Kevin Owens, c'est le duo en fait, Kevin Owens et Sami Zayn qui marche bien parce que et c'est marrant en fait, parce qu'ils ont vraiment basculer sur la relation où en fait c'est Sami Zayn le leader en ce moment, c'est lui qui fait tous les segments micro,
oui.
C'est lui qui chope la pop à mort de la foule, et Kevin Owens en fait c'est le mec un peu rigolo qui est à côté qui du coup s'énerve tout le temps, pète des câbles, il a envie de se battre, il s'énerve quand on lui coupe la parole et tout, il fait non mais t'as vu, il m'a empêché de parler et tout, ouais, oh.
ça marche tellement bien, il faut qu'il joue cette carte à fond quoi.
Et voilà, et donc c'est marrant parce qu'ils ont vraiment changé la dynamique parce que jusque-là, depuis leur arrivée à WWE, ça avait toujours été Kevin Owens, ce leader en fait, du duo. Mmh. Et ouais. Là, c'est vraiment inversé avec Sami Zayn qui est leader identifié du duo, le sage Sami Zayn, j'ai envie de dire, qui est beaucoup moins fou d'ailleurs qu'à l'époque de Bloodline. Hein. Maintenant, il est vraiment devenu très très sage.
Il est sage, mais il est quand même porté par un feu très fort, toi. Il a une mission, il y a des valeurs qui le portent malgré tout, donc il n'est pas fade pour autant.
Ah, il est sage, mais pas dans le sens trop sage, dans le sens plutôt la sagesse que ça, c'est l'élu.
Oui. Ouais,
il est, comme tu dis, il est parti en mission, là. Il est parti pour conquérir la Bloodline et il n'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas, qu'il sera pas à la fin de cette histoire-là. Donc voilà, donc je le donne mon top au duo et à la dynamique, au duo canadien qui a mené le fil rouge. Le flop. C'est compliqué à dire du coup parce que qu'est-ce qui est ressorti en dessous qu'est-ce que ça peut être
bon, on a eu
quoi, je vais le donner à ton à celui que tu trouves qui est favorisé grâce aux cassettes qu'il a sur Triple H et Stephanie McMahon qui s'appelle Xavier Woods, qui du coup Ah non, pardon, je l'annule.
Oh le mec, il a aussi un 12 sur toi, le mec.
Il a un dossier sur moi, il a un dossier sur moi, et donc du coup,
tu veux peut-être changer ton top aussi, non, du coup.
Non, pas à ce point-là, on va dire c'est pas un dossier si grave. Par contre, pour le flop, je vais le donner du coup à Nakamura Almiz. Je cherchais quel match m'avait ennuyé, et je les avais oubliés, ces deux cons, donc ce sera pour eux, en fait.
D'accord.
Les deux là qui sont dans le ventre mou, un vrai ventre mou là, de grosses feignasses. Et, et ma note, j'ai trouvé que c'était un roux super rythmé, qui jouait super bien la carte du show qui est show fermé quoi maintenant, qui est plus emmerdé par, emmerdé par les interventions des autres, mais n'empêche que un Paul Heyman avec juste son petit pass, il arrive quand même en tirant les ficelles à toute la merde en utilisant les moyens de Raw. Enfin bref, j'ai trouvé ça plutôt bien joué et vraiment enthousiasmant à suivre. Donc, je vais lui mettre un bon 3,5 à ce Monday Night Raw.
Ah, super. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. En plus, tu me fais plaisir parce que mon top, moi, je vais le donner au main event. Je comptais le donner au main event. Voilà. Donc, voilà. Un super main event. Voilà. C'est du entertainment à fond les ballons. Et tu l'as dit, c'est important. C'est presque ce Poleman qui est venu le feu déclencheur, qui arrive à se glisser encore comme une petite fouine. Rien qu'avec un pass visiteur. Le mec arrive à foutre le bordel dans le main event, c'est assez incroyable. Et vraiment, alors tu salues les Canadiens, mais vraiment tout le monde là-dedans était super, quoi. Enfin, franchement, Imperium, c'est génial. Le jeu demandé, ils sont au top du game.
Tout le bonheur. Hein.
Ah ouais, franchement, oh là, qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? C'est assez incroyable. Et puis, bah, évidemment, les Canadiens qui doivent porter tout ça là, qui font des top babyface valeureux, et ça fonctionne quoi. Et vraiment, vraiment, moi, ce main event, il m'a ravi. Mon flop, je vais le donner à l'interview de Seth Rollins. Voilà. Plat comme la Belgique. Et en plus, c'est en trois parties. Alors, c'est comme le dernier opus de Fast and Furious, hein. Fast X là, qui va être en trois parties.
Okay, ah bon?
Ouais, t'auras Fast X 1, Fast X 2 et Fast X
3. Oh là là.
Ce sera, ce sera sûrement plus divertissant que l'interview de Seth Rollins avec Corey Graves, mais quand même, voilà, on étire en longueur. Ouais, et en plus, c'est vrai que de savoir qu'il va falloir s'en retaper la même chose la semaine prochaine. Là, Seth Rollins, pour moi, il est dans le. On va lui donner sa ceinture, mais il a intérêt à faire vraiment quelque chose de ouf avec la ceinture parce que là, il est dans le. Voilà. C'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf.
Il part pas avec des bas super élevés. Alors, c'est marrant parce qu'il est comme porté par un public qui est à fond pour lui, mais c'est vrai que encore une fois, hein, le fait d'avoir une rivalité à distance avec AJ Styles, c'est pas ça qui va lui mettre le plus le feu. Hein.
Ouais. C'est le mec qui est. C'est le potentiel top babyface de Monday Night Raw.
Ah, bah, il le faut.
Ouais. Enfin, t'as Cody Rose, mais voilà, les deux, ça se joue entre les deux. Et. Ouais, tu le vois, mais tu le sens pas, quoi. Enfin, je trouve qu'on le sent pas. C'est assez amusant. Donc, ouais, mais je suis pas pressé, voilà. C'était nul, cette interview.
Voilà, c'était nul.
Allez, 3,75 pour moi. 3,75. On titille le 4. Hein. On titille le 4. Hein.
On titille le 4. Non, mais on est sur la route de retour aux grandes notes.
Ah ouais, ça fait plaisir. Bon, merci à toi, papy. Merci à toi, tout simplement. Voilà. Ça faisait longtemps que je voulais te le dire. Merci à toi.
Merci pour tout ce que tu fais, patron, pour la communauté catchesque de France. On n'en parle pas assez souvent de ce que tu as fait avec Catch Up. Bravo à toi.
Ouais, bah merci à toi pour tous tes remerciements.
Voilà, on est bon.
Okay, Catch Up, c'est le podcast qui analyse tous les shows de la WWE, évidemment, pour ne manquer aucun épisode. Et en plus, c'est gratuit. Il suffit de s'abonner sur toutes les plateformes habituelles de podcast. On est également sur YouTube. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, à nous mettre un petit pouce pour le référencement. Ça fait toujours plaisir. Les réseaux sociaux, Catch-up CDC sur Twitter, Instagram et Facebook. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire ce que vous pensez de la catchphrase de Cody Rhodes. Le lien est dans la description. Et puis, on vous donne rendez-vous très bientôt pour Friday Night SmackDown, qu'est-ce qui va se passer du côté du show bleu? Est-ce qu'on va frôler le 4 aussi? Retour aux grosses notes, vous le saurez très 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 rapidement. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut!
Salut à tous! Pas les deux cons.
Il y en a même trois des deux cons.
Il y a trois de cons, oh, putain.